que ça fonctionne, Pascal, c'est bon. On veut rendre grâce ensemble. Christ Jésus, merci parce que tu es la parole vivante. Merci de toutes les manières dont tu nous la transmets. Que ce soit en lisant ta parole directement par ton esprit, par les cantiques, les hymnes, les psaumes. Merci parce que, au travers de toi, de ta personne en nous, ta parole est vivante, c'est un appui, un soutien, c'est un chemin. C'est un espoir, c'est une lumière. Merci pour cette richesse que nous trouvons dans ta parole. Merci parce qu'elle est adaptée à chacun d'entre nous. Merci parce qu'elle nous rencontre chacun dans notre histoire, dans notre vécu, dans nos circonstances. Amen. Voilà, donc on est sur... essayer de prendre conscience de ce que c'est que le temps de Dieu. Dieu est un bon gestionnaire du temps. On a vu l'autre fois, il y a des temps d'ignorance, des temps de visitation, on va en reparler, des temps de rencontre, des temps de promesse, des temps d'épreuve. On aimerait bien mettre ces temps d'épreuve de côté, mais ils sont dans nos vies. Des temps de récompense, des temps secrets de rencontre avec Dieu, où voilà, chacun d'entre nous est concerné. Et puis je disais un jour, le temps... zéro. C'est-à-dire quand on va rentrer dans l'éternité, le temps n'existe plus. Le temps de l'univers se compte, c'est un peu compliqué. Hein. Le temps des cellules, le temps des arbres. Ce matin, j'écoutais Alain Baraton sur France Inter. Donc tous les ans, il y a des arbres remarquables. Là, il y avait deux arbres. Il y avait un qui était là, je n'ai plus son nom, puis un Ginkgo Biloba, ils ont un peu plus d'un siècle. Ginkgo Biloba est un survivant d'Hiroshima, et puis un survivant de tout ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Il est unique, il n'appartient à aucun genre d'arbre. C'est celui qui fait des petits cœurs qui deviennent jaunes vifs à l'automne, c'est magnifique. Si vous voulez en voir, vous allez au parc Chevassieux à Lorient. Il y en a un qui est magnifique. Certains arbres peuvent vivre 100 ans, 200 ans, 300, 400 ans, un millénaire. Certains chênes ont un millénaire. Voilà. Notre espérance de vie est un petit peu plus réduite. On reprend un texte qu'on avait lu déjà la dernière fois dans Galates. Au chapitre 4, les versets 1 à 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de la grâce. Au temps marqué par le Père, Dieu veut nous délivrer de l'esclavage de ce monde, pour que nous, même tout en étant dans le monde, nous n'appartenions plus au monde. Nous étions esclaves des principes élémentaires du monde. Au travers de son esprit, de l'écriture, au travers des petits cœurs, ne sous-estimez pas la puissance spirituelle qu'il y a dans des petits cœurs. On en a chanté deux, trois ce matin. Voilà, ça peut être le ciseau qui coupe les liens dans nos vies. Ça peut être la chose qui tire sur les nœuds, qui défait les nœuds. Le Seigneur m'a beaucoup aidé au travers des chants des petits cœurs. Parfois, simplement, pouvoir pointer face à soi, face à l'adversaire, face au monde, les paroles d'un petit cœur, et puis tout d'un coup, les choses sont coupées, les choses se dénouent, les liens sont défaits. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a touché chacune de nos vies. Peut-être depuis quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années, quelques siècles, non, puisque on n'a pas une vie aussi longue. Pour ma part, ça fait 53 ans, un peu plus de 53 ans, que le Seigneur a touché ma vie. Quand le temps a été accompli, une parole de Dieu, la présence de Dieu, du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit a touché ma vie. Et les choses ont été changées. Afin qu'il rachète ce qui était sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Et là, il y a un chemin pour devenir fils et fille de Dieu. C'est un nouveau statut. Dans les arbres, il y a des bonsaïs. Rémi s'y est beaucoup intéressé. Moi, j'ai un petit peu de peine, parce que voilà, les arbres, il faut les garder nains. Donc, tous les 2-3 ans, il faut couper les racines, il faut couper les branches. C'est quand même assez spécial. Il y en a qui peuvent être très beaux visuellement. Hein. Ça peut être très, très joli. Est-ce que je suis un chrétien bonsaï? Tout petit. Est-ce que je suis un chêne, un ginkgo biloba, un arbre à feuilles lacinées qui tout d'un coup, une année en 2025, va devenir l'arbre choisi, l'arbre préféré. Tout ça, c'est des choix. Hein. Parce que vous êtes fils et filles de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à vos pères, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier, comprendre la richesse, la puissance, la profondeur de l'héritage que tu veux nous donner. Qu'au fur et à mesure que j'avance dans la vie, je sois rendu semblable à Christ. Waouh ! Cette maturité de fils. On prend un texte tout bête, le psaume 118, les versets 21 à 26. Psaume 118, 21 à 26. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, c'est aujourd'hui. Quand les temps ont été accomplis, notre temps, c'est chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, quelque chose peut changer dans ma vie. Dans mes difficultés personnelles, dans ma confrontation avec les choses du monde, dans les oppositions directes avec l'ennemi. Quand l'Esprit de Dieu en nous dit, voilà, maintenant, ça suffit. Le Seigneur a parlé ce matin de possibilités de libération. Il y a des ciseaux, hein, les ciseaux de l'écriture, des petits cœurs qui peuvent nous libérer des liens, des choses qui nous asservissent, qui nous gardent bonsaï, hein, tout petit. Ça, il y a deux sortes de ciseaux. Il y a les ciseaux qui libèrent et puis il y a ceux qui permettent. Alors, voilà, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est très, visuellement, c'est très, très joli. Mais ça va rester tout petit. Quels sont les temps de Dieu qui s'accomplissent dans nos vies? Et est-ce que nous laissons au Seigneur, voilà, toute la liberté de nous développer, de nous donner des vitamines, de l'eau, du soleil, voilà, pour pouvoir pousser, nous développer. On lit ensemble dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 19. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants mis de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ensuite, il entre dans le temple. Et puis, il y a tout ce dialogue. Détruisez ce temple. Jean-Marc nous en a parlé dernièrement. Et je le reconstruirai en 3 jours. Et puis on lui dit, mais ça va, il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et puis, Jésus peut pleurer sur la vie des hommes et des femmes. Dieu est une personne, il a aussi des sentiments. On a de la peine avec ce côté-là. Hein. Dans ma vie, parfois, je sais que, voilà, j'ai penser ou faire des choses qui ont vrillé la relation avec Dieu. Et 2-3 fois dans ma vie, c'est comme un poids noir qui tombe dans l'intérieur, et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas réussi à dégager de ces choses-là? Et 2-3 fois, je me suis dit, j'ai perdu mon éternité. Comme j'y tenais beaucoup, je me suis dit, ah, punaise, voilà. Mais Seigneur, voilà, comment tu peux m'aider à ne plus refaire, à ne plus revivre des choses comme ça? Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle. Et dit, si au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Jean-Marc nous a parlé de paix tout à l'heure, de shalom de Dieu. Parfois, j'ai mis des mois, parfois des années, à récupérer cette plénitude de paix en me disant, ouais, voilà, là, allez. Je me suis dégagé de certaines choses. Peu après le départ de Jésus, 40 années après, les choses ont mal tourné pour Jérusalem. Les Romains sont arrivés avec Titus, puis 70 ans après, c'est encore... Jérusalem était détruite plusieurs fois. Jésus est entré dans le temple, il a chassé les voleurs, puis il leur a dit, mais voilà, qu'est-ce que vous faites avec la maison de Dieu? Qu'est-ce que je fais de la maison de Dieu, du temple de Dieu que je suis? Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, le Seigneur veut dévoiler les choses qu'il veut nous donner. Et il veut nous faire entrer dans cet héritage, dans cette plénitude d'héritage. Pouvoir devenir adulte en Christ, continue d'avancer. Quand Dieu veut agir dans nos vies, veut agir dans l'humanité, régulièrement, l'ennemi met des choses fausses, des mensonges, des demi-vérités, des choses qui cachent les choses de Dieu. Les sociétés changent. Il y a trois niveaux de temps. Le temps long, le temps des civilisations, le temps des âges, des ères, c'est-à-dire des centaines d'années, des millénaires. Depuis que Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans, c'est une ère complète. Quand est-ce que celle-là va être accomplie, close, et qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Il y a le temps chronos, celui qui nous... c'est la montre, hein. 60 secondes, 60 minutes, 24 heures, les jours, les mois, les années, c'est le, on dit le temps chronophage, qu'on a de la peine à... Et puis le temps maintenant, aujourd'hui, où Dieu veut agir dans nos vies et veut donner une parole, quelque chose de vivant. Le jour où Dieu nous visite, où la parole nous visite, où un cœur nous visite à nous. Un cantique, un hymne, ou une parole d'un frère, d'une sœur, parole, peu importe, mais que Dieu fait résonner dans nos vies, puis dit, mais là, comment est-ce que cette parole peut t'accompagner, peut te changer? Quand Dieu veut agir dans nos vies, dans la vie des civilisations, des sociétés, souvent l'ennemi met un leurre. Bien, alors, on va le suivre. Juste avant la naissance d'Abraham, avant la naissance d'Isaac, Abraham a vu Lot prisonnier, puis a vécu Sodome et Gomorrhe. Il a vécu les temps. Puis après, il a vécu le temps de la promesse. Avant la naissance de Moïse, le pharaon dit, ah, quelque chose de nouveau va naître. Hein. Il a dit aux sages-femmes, vous, c'est horrible, hein, vous tuez tous les premiers-nés des Israélites. Elles en ont sauvé, caché quelques-uns, dont Moïse. David, avant de devenir roi, a dû se battre contre Goliath. Il était promis l'onction d'huile de Samuel. C'est toi le roi. Ouais, mais avant d'être roi, il a vécu des choses difficiles. Le temps de la royauté, déjà, un roi babylonien, Nebuchadnezzar. L'histoire se répète. Il a pris Samarie, Jérusalem. Retour de l'exil. Quelqu'un qui s'appelle Alexandre le Grand, puis il a plein de descendants. Il y en a un qui s'appelle Antiochus III le Grand, et un autre qui s'appelle Antiochus IV Épiphane. Dans l'écriture, il est appelé l'abomination de la désolation. Parce qu'il va entrer dans le temple, offrir un sacrifice d'un porc, d'un cochon. C'est une abomination des gens qui pensent être... Du temps d'Hérode, les mages viennent le voir et lui disent, tiens, il y a un roi qui est né. Hérode dit, quoi, comment ça, un roi? L'accomplissement d'une parole du prophète Jérémie, on a entendu des pleurs à Jérusalem. Et Hérode va demander de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. C'est, quand on y pense, c'est des génocides, c'est des... Le monde n'a pas changé. Juste avant la naissance de Jésus, Hérode décrète qu'on tue tous les premiers-nés, tous les enfants mâles. Jérusalem détruite 2 fois avant que Dieu fasse des choses nouvelles. 7e siècle, naissance de l'islam, une vie compliquée, huit croisades. L'ennemi essaie par tous les moyens de détruire la foi chrétienne. Tout le djihadisme musulman d'aujourd'hui vient d'un mouvement qu'on appelle les frères musulmans. Ils ont essaimé. L'ennemi essaie de détruire. Vendredi après-midi, on partagea pendant le temps de prière en Turquie depuis des années. Président, il essaie d'étouffer par tous les moyens le christianisme, là où il est né, là où il s'est développé. Par tous les moyens. Des décrets, des non-assistance à chrétiens en danger. Aujourd'hui, il y a une agitation dans le monde. Prions que l'Esprit de Dieu puisse visiter les nations. Quand l'ennemi fait une chose, mais ça veut dire que Dieu essaye derrière de rétablir, de renouveler les choses. On lit deux textes ensemble, des textes qui ne nous font pas forcément toujours plaisir. On les lit rarement en Église. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Moi, je les lis, je les relis, c'est un peu comme un avertissement. Hein. 2 Thessaloniciens, deux. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est un texte qui a 2000 ans. Qui nous parle des temps, qui nous parle d'un mystère, mystère de l'iniquité. Pourquoi avant la naissance de Moïse, un pharaon se prend la tête et dit « Mais je vais les tuer ces gens-là, ils me dérangent. » Pourquoi tout d'un coup Hérode prend peur et se dit « Mais supprimons le roi à venir. » Je ne vous parle pas du XXe siècle, mais je ne vous parle pas d'aujourd'hui. Avant que Dieu agisse de manière puissante et grande, l'ennemi essaye de tenir un leurre. Et il me semble qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Beaucoup de dirigeants veulent revenir en néo-impérialisme, avec un fondement spirituel, fondement religieux. Jean-Marc parlait, hein, ce n'est pas la religion qui est importante, c'est la relation avec Dieu, la relation spirituelle. Les signaux faibles. On en parle aujourd'hui. Hein. Comment discerner dans tout ce que l'on vit les signaux que Dieu envoie. On lit un texte dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Les versets 31 à 35. Question du roi Nebuchadnezzar. Au roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine, ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer d'argile de la statue, la mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Le livre de Daniel est un livre prophétique. Le roi Nebuchadnezzar se voit lui-même et voit le jugement de tout ce qui va arriver après lui. La tête d'or, c'est ce roi de Babylone. Ensuite, on retrouve les Mèdes et les Perses avec le torse. Ensuite, on retrouve les Grecs avec les jambes, celui qui court vite, hein, Alexandre le Grand. En quelques années, il est allé à l'autre bout de la terre. Et ensuite, on a les pieds d'argile, de fer. C'est l'Empire romain. Ces empires, aujourd'hui, on essaye de les reconstruire. Chacun dit, ouais, mais celui qui est là à côté de chez vous, mais il est à moi, il était à moi avant. Donc je vais le. Et puis, signaux faibles, ces grands empires, une petite pierre. Il tape sur les pieds et tout s'écroule. Il y a de l'espoir dans ce monde. Tous ceux qui se voient empereur, César, Dieu, hein, on a vu un texte. Un jour, il y en a un qui va dire, mais non, finalement, le super chef, super César, super empereur, c'est bon. Et puis, il y a cette pierre qui vient du ciel. Première venue de Jésus, Israël a eu de la peine à comprendre. Depuis 2000 ans, l'évangile se répand dans le monde entier. Prions pour qu'au travers de tout ce qui se passe dans ce monde, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, voilà, quelque chose de nouveau puisse entrer dans les nations. Tous ceux qui n'obéissent pas au Seigneur, un jour, cette pierre va venir les frapper. Ces empires vont tomber et il dit, nulle trace n'en fut retrouvée, même si on fait de l'archéologie. Ces empires vont disparaître. Et le seul qui va rester, c'est celui du Christ Jésus. Depuis 2000 ans, l'Écriture nous en parle. On lit encore un texte dans 1 Jean. Ce n'est pas toujours des textes voilà, les plus faciles. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Hein. Déjà du temps de Jean, de Paul, déjà, voilà, les chrétiens devaient être éveillés. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est arrivé afin qu'il soit manifeste qu'ils ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, vous avez tous de la connaissance. On passe au verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Comme cette onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'avons pas la honte d'être éloignés de lui. Il y a plusieurs systèmes religieux en ce moment qui sous-tendent des politiques impérialistes. Faire peur. Après, l'Écriture dit, voilà, ça fait 2000 ans que c'est annoncé. Hein. Jean a été confronté à l'Empire romain. César, qui l'a emmené en exil, qui l'a mis un peu en prison, bon, en résidence surveillée sur l'île de Patmos. Les chrétiens ont été persécutés pendant un siècle, deux siècles, trois siècles. Donc, toutes ces choses ne sont pas nouvelles. Et puis en même temps, voilà, il a dit que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui sent son onction, et la vérité, elle n'est pas un mensonge. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais voilà, à mon grand déshonneur, aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens, qu'ils soient évangéliques ou pas. Hein. Il y a des mouvements évangéliques que je refuse de suivre. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont quitté une zone de compréhension qui est la mienne, et ils professent des choses voilà, que je ne partage pas. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, vous avez tous de la connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Je suis content d'avoir reçu un enseignement qui est juste, que j'ai pu vérifier, que je vérifie encore aujourd'hui. D'être réveillé ou éveillé, veiller, prier, vous ne savez voilà, ni le jour ni l'heure. Voilà, et rester dans l'enseignement. On lit l'Écriture ensemble et on contrôle et on discerne les choses ensemble. On en parlait vendredi après-midi. Il y a 25 ans, on a rencontré un milieu chrétien. Puis un jour, en allant les rencontrer à Nantes, j'ai été pris entre quatre yeux par deux responsables qui m'ont dit « Ah oui, c'est toi le nouvel Esdras. Donc dans ton église, tu vas... virer celui avec qui tu travailles à tes côtés, puis c'est toi qui vas devenir le... » Puis à partir de là, on a dû se réunir en équipe pastorale, faire le bilan, et puis de se dire, est-ce bien raisonnable ? Il y a des milieux chrétiens qui sont des milieux toxiques. Ils font les coucous. Ils essayent de mettre quelqu'un, et puis... Enfin, voilà, donc c'est... l'histoire de l'Église, la vie de l'Église, c'est aussi une histoire de discernement, de connaître les temps et les moments de Dieu, et puis d'être réveillé, d'avoir du discernement. Pour clore, j'aimerais juste lire un texte sur lequel on repartira la fois prochaine. C'est par épisode, c'est comme les séries. Hein, y a des... séries télévisées Netflix, moi je fais des séries. Allez, on lit dans Luc chapitre 1, versets 26 à 28, et puis on repartira de, de ce texte la fois prochaine. C'est la Visitation à Marie. C'est un texte extraordinaire. Marie est un personnage extraordinaire. Un témoin extraordinaire. Luc, chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Que le Saint-Esprit puisse venir sur nous et nous couvrir de son ombre, et nous couvrir de la présence de Jésus et de sa parole. Et que l'on puisse dire, « Rien n'est impossible à Dieu. » Je suis le serviteur ou la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. La meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est que les promesses que Dieu nous a données s'accomplissent dans nos vies. On peut recevoir 365 paroles, une pour chaque jour peut-être. Peut-être plus. J'ai toujours dit, il vaut mieux en avoir plus que moins. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Secrète la présence de Dieu. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Je dis souvent, hein, j'ai eu le privilège, ma première année de vie chrétienne, tous les soirs quand j'allais m'endormir, je prenais l'écriture. Waouh ! La présence du Seigneur par l'Esprit Saint. Il disait, Michel, voilà ça. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, faire les choses. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je suis le serviteur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Sur ce, bien, je vous laisse méditer ces paroles.